On va, sans plus tarder, rentrer dans le message. On va partager la parole de Dieu, cette parole qui nous fait du bien, qui recentre les priorités, parce que souvent, on aurait tendance à mélanger le primordial au secondaire. Et je crois que plus que jamais, nous devons nous focaliser sur le primordial. Le secondaire, il y a des choses importantes, mais pas essentielles, évidemment, par définition. En commençant, voilà, j'aimerais vous poser une question. Et je vais désigner trois personnes pour que spontanément, vous puissiez... Alors la première, elle va répondre spontanément, puis les autres, ils auront un peu plus de temps pour répondre, évidemment, c'est logique. Mais voilà, spontanément, pour vous, quel est le véritable sens de Noël ? Là, par exemple, si je pose la question à Christine. C'est quoi le véritable sens de Noël? Comment ça, spontanément? La naissance de Jésus. Voilà. Spontanément, je sais pas. Magali, elle me regarde plus. Elle essayait d'éviter. La naissance de Jésus. Voilà. Voilà. Comme ça, juste, on va dire, au hasard. Et Clément. Bravo, ils sont spirituels, hein, vraiment. Hein, on va les garder, hein, on va les garder avec nous. Voilà. En fait, voilà le partage semaine qui va arriver. C'est un moment évidemment, hein, à moins que vous partiez dans une galaxie lointaine. Vous savez ce qui va arriver la semaine prochaine avec ces temps de fête, d'illumination. D'ailleurs, certains l'appellent la magie de Noël. Ben, on va voir ensemble qu'il ne faudrait pas rater le véritable sens de Noël. Noël, donc évidemment, c'est la venue du Seigneur. Donc le titre du partage, c'est le véritable sens de Noël. Et dans un contexte où les crèches ou les sapins sont interdits ou bannis dans l'espace public, finalement, la question que l'on peut se poser et que l'on doit se poser, que représente Noël pour vous ? Alors, voilà, on a fait un petit sondage, un mini-sondage interne pour savoir spontanément. Les trois ont répondu la même chose. Mais moi, j'ai regardé dans un sondage, on va dire national, et que tout le monde connaît. On va pas faire de pub ici ce matin. Regardez le résultat à la question « Que représente Noël pour vous ?» La célébration de la naissance de Jésus, 27%. D'autres ont répondu une fête familiale, 24%. Alors je sais que les trois que j'ai interrogés, voilà, vous avez voulu bien faire. Voilà, j'espère que c'était spontané. Voilà, une fête familiale, 24%. Un échange de cadeaux, 12%. Un temps pour se régaler, c'est ceux qui aiment bien manger, 7%. Un temps solitaire et triste. Eh oui, des fois on l'oublie, hein. 6%. Certains ne célèbrent pas Noël. 6% également. Alors là, certains ont répondu, c'est la fête du Père Noël. 5%. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'existe pas. Hein. Au risque de faire une annonce, c'est bon pour tous. Ça va. Pour 5%, c'est une source de stress. Le cadeau de dernière minute. Ça, c'est en général la spécialité des hommes. Hein. Vous êtes avec moi, les hommes? Au dernier moment, on court partout. Et puis, avec l'expérience, on se dit, bon, l'année prochaine, il faut que je m'améliore. Hein. Ouais. Une source de stress. Alors, et pour certains, 5% encore, un jour de congé. Certains, ils ont besoin de se reposer. Hein. Et puis, 3%, et si vous avez retenu tous les pourcentages, 3%, c'est autre chose. Alors on voit que dans ce résultat du sondage, il y a beaucoup de personnes qui pensent différemment. C'est quoi Noël et que représente Noël? En fait, moi j'aimerais juste simplement le résumer comme ça. C'est que Noël, c'est un cadeau que Dieu a fait à l'humanité entière. Et le cadeau, c'est le plus grand de tous les cadeaux. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, c'est le cadeau sublime, la naissance de Jésus. qu'il offre à toute l'humanité. Amen. On va lire un passage dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, en introduction. Luc 1, verset 26. Nous sommes ici à l'annonce de la naissance de Jésus. Pour ne pas rater le vrai sens de Noël, nous devons vraiment plonger nos regards sur la parole de Dieu et la préparation qu'il y a eu juste avant. Amen. Nous lisons donc ceci. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Alors cette histoire, on la connaît tous, hein. On connaît tous cette histoire, évidemment. Et ici, nous sommes dans cette période de l'annonce, donc de la naissance de Jésus. On a lu ensemble au verset 26, « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. » Sixième mois, évidemment, cela se réfère à la grossesse d'Élisabeth. Hein, c'était par rapport à ça qu'on comptait. Alors le Seigneur, j'aime beaucoup parce qu'il est dit, c'est envoyé par Dieu. Et Dieu va envoyer l'ange Gabriel. Gabriel, son nom veut dire « Dieu est ma force ». Amen. Dieu est ma force. Et l'ange signifie, évidemment, messager. L'ange va venir avec un message directement de la part de Dieu. Un ange envoyé par Dieu et porteur d'un message direct de Dieu pour une jeune fille. Et ce message, il est extraordinaire, hein, on va le développer ensemble. Il fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth. Alors ça peut paraître comme ça, quand on le lit, simple, c'est l'introduction de ce passage. Mais on voit que rien que le choix de cette petite ville de Nazareth, c'est un choix tellement important. Parce que Nazareth, je ne sais pas si vous êtes au courant, à l'époque, on disait Nazareth par dérision. C'était le village était appelé Netzer, qui veut dire rejeton. Et là, en fait, ça nous ramène à un passage prophétique. Un passage prophétique dans Ésaïe chapitre 11 et le verset 1er. Ésaïe 11 verset 1er. Regardez, la précision de la parole est d'un temps prophétique où Dieu allait envoyer son Messie, son envoyé. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Vous voyez la précision, le nom de Nazareth qui voulait dire donc rejeton. Et cela était ancré dans l'imaginaire collectif. Parce que vous vous souvenez quand Nathanaël était sous le figuier. Jésus va lui dire, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et c'est sûr que Nathanaël se posait des questions. Mais quand viendra le Messie, l'envoyé, donc de Dieu? Et puis, en voyant Jésus, il s'est sûrement posé cette question, est-ce que c'est bien lui? Et il va avoir cette déclaration, qui est une triste déclaration. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Vous voyez, c'était inscrit dans le collectif, et tout le monde savait que de Nazareth, il sortirait rien de bon. Et peut-être que c'est le cas pour quelqu'un ce matin, où il y a des paroles de mort qui ont été prononcées sur des vies. Tu es un bon à rien. On a déjà entendu ça par des parents dire ça à leurs enfants. Tu ne feras jamais rien de ta vie. Ces paroles-là, on doit les refuser. Parce que quand on vient au Seigneur, le Seigneur, évidemment, nous fait comprendre que nous avons de la valeur à ses yeux. Alléluia. Et nous sommes appréciés de lui. Et ça, c'est un drame quand des chrétiens ont donné leur vie au Seigneur et qu'ils n'ont pas compris ce grand message, que nous sommes tous précieux et précieuses aux yeux du Seigneur. Alléluia. Alors là, ça va ouvrir nos yeux. Nous sommes en pleine considération qu'un Dieu si grand ait pu porter un jour ses regards sur ma vie, certes insignifiante, moi, au milieu de tous ces millions de personnes sur la terre, le Seigneur avait prévu de toute éternité de me sauver. Alléluia. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Amen. Donc oui, déjà dans ce verset 26, il y a beaucoup de vérités qui sont dites ici. Donc une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 27, il continue en disant, donc auprès d'une vierge fiancée, l'ange va venir, et à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Vous voyez la précision de la parole de Dieu. On sait que la virginité de Marie est mentionnée ici par Luc pour souligner, parce qu'il faut se poser toujours la question, pourquoi avoir choisi cette jeune fille donc qui était vierge, tout simplement pour souligner le caractère miraculeux de la naissance de Jésus. Alors des fois on peut se poser la question, il fallait que ce soit évidemment extraordinaire, un miracle merveilleux, parce qu'on sait comment la nature fonctionne pour procréer. Et donc, il va appeler cette jeune fille pour que souligner le caractère miraculeux de la naissance de Jésus-Christ. C'est le miracle le plus extraordinaire que la terre ait pu voir. La venue du Fils de Dieu en chair sur cette terre. On le dit, on le répète, l'erreur serait de croire que Jésus est né un 25 décembre. C'est pas ça. Alors on le situe comme ça, on a voulu mettre une date. Mais en fait, au-delà de la date, ce que cela représente, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que le Fils de Dieu qui était là depuis toute éternité, pas de commencement, il n'a pas de fin, il vienne sur la terre, il va faire cette déclaration. Envoie-moi pour faire ta volonté. Alléluia. Et la volonté de Dieu, c'était qu'il puisse venir. Amen. Le nom de la Vierge sera Marie. Marie et Myriam, c'est le même mot. Vous le savez. Son nom signifie amertume. Je ne sais pas, parce que la Bible ne le dit pas, si elle avait de l'amertume dans son cœur. S'il y avait une souffrance secrète, quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à quelqu'un, elle avait gardé, et des fois il y a des souffrances secrètes que l'on garde. Même nos bien-aimés ne sont pas au courant. Sachez une chose, c'est qu'il n'y a rien qui échappe au regard du Seigneur. Le Seigneur connaît tout, il sait tout et il peut tout. Alléluia. Amen. Donc cette jeune fille avait sûrement de l'amertume pour qu'on puisse l'appeler comme ça. Au verset 28, il est dit que l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Vous voyez que l'ange vient avec un message et tout d'abord, en forme de salutation, il dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Ou, dans d'autres traductions, il est dit « Toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Quel message! Ah, c'est sûr, ça l'a ébranlé, on va le voir un peu plus loin. Mais regardez par rapport à ce que certaines dénominations veulent nous faire croire. Remarquez avec moi que l'ange n'a pas dit « Toi, pleine de grâce. » Parce que souvent, on l'entend. Marie, pleine de grâce. Il est dit « À toi à qui une grâce a été faite. » C'est différent. Hein. Il y a une grosse différence qu'il a. Elle était ici au bénéfice d'une bénédiction unique dans l'histoire. Elle a eu le privilège de porter dans son ventre le Fils de Dieu. Je ne sais pas si on imagine la portée du cadeau qui a été fait, qui lui a été accordé. Et donc, Marie, j'aimerais dire à tous ceux qui sont ici ce matin, peut-être d'autres qui l'entendront, étant donné que le message est enregistré, et on veut le dire haut et fort, c'est que Marie n'est pas la mère de Dieu. Parce que la Bible ne le dit pas. Et on n'a pas peur d'affirmer ces choses-là, parce que nous déclarons ce qu'il y a dans la parole. Elle n'est pas la mère de Dieu, c'est une expression même anti-biblique. Comment Dieu pourrait-il avoir une mère? Alors on sait que derrière tout ça, il y a plein de choses qui se trament afin de pouvoir mettre un voile sur d'ignorance sur des personnes pour leur faire croire qu'il y a un moyen, c'est qu'il y a une médiatrice par laquelle on peut passer pour pouvoir s'approcher de Dieu. Si quelqu'un trouve ça dans la parole de Dieu, venez me voir. Alors je sais que, évidemment, ça n'existe pas. Mais par contre, il y avait des vertus qui justifiaient le choix de Dieu, donc le choix universel du Seigneur d'avoir choisi cette jeune fille, c'est parce qu'il y avait des vertus qui avait été trouvé dans son cœur. Imaginez-vous s'il avait eu une vie dissolue, une vie loin de Dieu, vous pensez qu'elle aurait été choisie? Et non, hein. C'est parce qu'au préalable, elle avait un état de cœur, un état d'esprit qui correspondait. Et le Seigneur, donc, l'a choisi, l'ange vient pour confirmer. Il dit, toi à qui une grâce t'a été accordée. Et on est tous d'accord pour dire que c'est une grâce. Au verset 29, et... Alors, suite à ça, suite à cette apparition, à ce message, et ayant vu l'ange, elle fut troublée. Tu m'étonnes. Hein, on le serait à moins. Elle fut troublée dans son discours. Et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Alors, on voit que l'ange, il ne va pas la laisser comme ça. Hein. Alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. En fait, l'ange était en train de lui dire dans une autre version, n'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est parce qu'en fait, tu as été choisi, tu as trouvé grâce devant Dieu. Peut-être que c'était dans son cœur également une prière. Seigneur, si tu pouvais m'utiliser. Je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Fais de moi ce que tu veux. Des fois, il y a des prières comme ça qui montent de nos cœurs. Et le Seigneur attend qu'on puisse, au travers de cette prière, s'offrir sur l'autel du sacrifice et dire, Seigneur, ma vie, je te l'ai donnée. D'ailleurs, on fait des belles confessions de foi. Et un jour, l'apôtre Paul, il va le répéter à Timothée. Timothée, il ne faudrait pas que tu oublies qu'un jour, tu as fait une belle confession de foi. C'est-à-dire, Seigneur, je te suivrai partout où tu m'enverras. Je suis à ton service. Ma vie, elle est à toi. Le drame, c'est que, la plupart du temps, on reprend la vie qu'on a donnée au Seigneur, où on ne se laisse pas diriger par le Seigneur. Et des fois, on résiste dans notre cœur quand le Seigneur nous demande quelque chose. Il y a une certaine désobéissance qui est là, et ça, c'est vraiment terrible. Marie est troublée, profondément agitée, c'est le mot. Le mot veut dire, c'est intéressant. Hein. Faites cette gymnastique-là, quand vous lisez la parole, vous lisez votre passage, je ne sais pas comment vous lisez la parole, mais voilà, moi en tout cas, je la lis de façon, la Bible en un an, donc ça fait que chaque année, on lit la Bible du début à la fin, et moi j'aime bien m'arrêter à un moment donné pour méditer et aller en profondeur sur le sens initial, donc en hébreu ou en grec, que veut dire le mot? Il y a une richesse, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Si le Seigneur a prévu donc de traduire la parole de l'hébreu et du grec, c'est parce qu'il y a une richesse que nous, dans notre langue, nous n'avons pas. Alors j'ai regardé, et quand il est dit que Marie, elle fut troublée, c'est-à-dire elle fut profondément agitée, remué et bouleversé. Et des fois, quand on reçoit des nouvelles, c'est comme ça que ça se passe. Agité. Et des fois, quand on est agité, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va nous empêcher de dormir. Il va y avoir une perte de paix. Une perte de joie. Et quand on n'a pas la joie, ça se voit. Quand on l'a, ça se voit aussi. Alléluia. Alors, elle a été troublée profondément par les paroles de l'ange. Et remarquez avec moi, encore une fois, des petits détails. Alors l'ange, verset 30, alors l'ange lui dit, Marie. Il l'appelle par son prénom, il la connaît. L'ange la connaît. Il l'appelle Marie. Il appelle, et toi là, Marie. Quelle grâce de savoir que nous sommes connus de Dieu. Le Seigneur nous connaît, alléluia. Vous savez quoi? Il a même gravé nos noms sur les paumes de sa main. Je ne sais pas si vous avez l'image là. Mon nom est inscrit. Personne ne peut ôter le nom, alléluia, qui est inscrit dans les mains du Seigneur. Et ça, c'est une image pour nous faire comprendre encore une fois que nous sommes des gens précieux, alléluia, et on n'est pas n'importe qui. L'ange donc connaît le nom de la jeune fille, et la formule « trouver grâce » signifie « Dieu t'est favorable ». Et nous sommes tous au bénéfice de la faveur de notre Seigneur. Faveur et grâce, dans la Bible, c'est le même mot. Faveur et grâce. N'oublions jamais que nous avons été graciés. Une sentence était sur nos vies, une condamnation. Et le Seigneur a pris cette condamnation quand nous l'avons acceptée. Il a pris l'acte qui nous accusait, parce qu'il y avait un acte légal de la part de l'ennemi, pour dire, cette personne, elle m'appartient. Et il y a eu le rachat de nos vies, c'est ce qu'on appelle la rédemption. Le Seigneur a payé pour nos vies, il a payé cher. Pour nous, le salut est gratuit, mais pour Dieu, ça lui a coûté le don de son Fils. Dieu nous est favorable. Alors j'aime le dire comme ça, nous avons changé de camp et désormais nous sommes dans le camp des vainqueurs. La victoire est assurée et non seulement le Seigneur il fait de nous des vainqueurs, mais des plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, ça sous-entend que nous sommes vainqueurs parce que nous n'avons pas eu à combattre le combat que le Seigneur a mené. Alors oui, le Seigneur nous est favorable. Avec ces paroles qui va débuter de ce message de l'annonce du Seigneur Jésus, on va voir ensemble le véritable sens, la deuxième partie du passage qu'on a lu, le véritable sens de Noël. Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est son message. Il y a un message qui est à apporter. Verset 31, « Et tu concevras et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras, et tu appelleras son nom, c'est Jésus, amen. » Bien des siècles auparavant, un prophète avait reçu ce message-là déjà. On retrouve ces paroles dans Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie, alors certains n'étaient pas sûrs, j'ai entendu, Dieu avec nous, alléluia. Rien que par la définition du mot, il y a tout un message qui est véhiculé, et ce message, c'est-à-dire, Dieu est avec vous, Dieu est, et vous est favorable, vous avez la faveur de Dieu, donc, et désormais vous êtes dans le camp de Dieu. Alléluia. Et donc dans le verset 31, il est dit « Son nom sera Jésus ». Et dans le nom de Jésus, c'est « Jesus » en grec, « Yeshua » en araméen, signifie « L'Éternel sauve ». Voilà le premier message et le premier sens de Noël. C'est que Dieu est un sauveur en donnant son Fils qui déjà porte en son nom le pouvoir de sauver les pécheurs que nous étions. Mais si on va plus loin, alors le message c'est le Seigneur vient pour sauver, mais finalement sauver de quoi ? Être sauvé du péché. Le péché nous cache la face de Dieu. C'est notre problème numéro un qu'on hérite à la naissance, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Le virus du péché est transmis de génération en génération. Tout ça, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, certains ont désobéi. Vous vous souvenez de l'histoire ? Le Seigneur crée l'homme et la femme, et puis il leur donne tout ce dont ils avaient besoin, parce que le Seigneur, il prend soin, hein, même des petits détails, dans un cadre idéal. Il leur dit, par contre, vous toucherez pas à cet arbre. Pourquoi ? Est-ce que Dieu est un Dieu dictateur, capricieux ? Jamais de la vie. C'est parce qu'en fait, le Seigneur voulait montrer à Adam et Ève que l'amour, c'est quelque chose de volontaire. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Et donc, par ce choix-là, on sait qu'il va y avoir un tentateur. Là aussi, des fois, on a du mal à comprendre. Un serpent qui vient, qui commence à parler. Tentation. Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu a-t-il réellement dit ? Le doute rentre dans le cœur d'Ève. Et puis, on sait tout ce qui va se passer par la suite. Et donc, par transmission, il y a une malédiction qui est là. Donc donné par transmission à chaque être humain ici-bas sur terre. Alors nous sauver du péché, et comme nous sommes incapables nous-mêmes de nous sauver. Vous savez que ça c'est une arme qu'utilise l'ennemi, c'est une arme numéro une, hein, en disant que finalement on peut se sauver nous-mêmes en faisant des œuvres. En essayant de donner des œuvres caritatives. D'ailleurs, quand on témoigne à certaines personnes, ils disent « mais je suis pas un pécheur ». Un jour, je disais à une jeune fille que j'avais dans le bureau, dans une autre église, je disais « ben la Bible dit que nous sommes tous pécheurs ». Elle me disait, elle n'était pas d'accord avec moi. Hein. Moi, mais c'est pas possible. J'ai jamais tué, j'ai jamais volé. Alors après, il a fallu qu'on lui explique le plan du salut et ce que je suis en train de vous expliquer. Mais en tout cas, oui, Jésus vient pour nous sauver du péché, comme nous sommes donc bien incapables de nous sauver, Dieu va pourvoir. À la montagne de l'Éternel, il a été pourvu, nous dit la parole, et il a pourvu en donnant son Fils à la croix du calvaire. Et nous tous qui l'avons accepté, on réalise la grâce qui nous a été accordée, un peu comme Marie. Hein. Une grâce nous a été accordée. Pourquoi nous ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Ça fait partie du mystère, c'est de l'élection et de la prédestination. Mais ça appartient au Seigneur. Certains se sont creusés la tête. Vous savez, il y a toutes sortes de dénominations, et j'ai été confronté à ça, hein, avec un chrétien qu'on avait baptisé, voilà, qui à un moment donné, l'élection, la prédestination, voilà, il s'était embourbé. Et vous savez, quand quelqu'un est embourbé, soit il bouge pas et il attend qu'on vienne le sortir. Et là, du coup, c'est plus facile. Soit il continue à se débattre en disant « mais non, mais ceci, à prendre les versets, les étirer. » vous connaissez cette technique d'étirer les versets pour dire « regardez ce que dit la Bible, mais on oublie le contexte. » Que c'est pas dans ce contexte-là que ce verset, voilà, et qui n'est pas approprié. Et donc, on s'aperçoit que dans l'élection, la prédestination, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais nous avons besoin de plonger nos regards pour savoir. Et ça va conforter notre cœur et notre marche avec le Seigneur, de savoir que un Dieu si grand, avant la fondation du monde, encore une fois, ça, c'est extraordinaire, avant la fondation du monde, il pensait déjà à nous. Alors nous, enfin, en tout cas moi, quand je réfléchis, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal avec ça, dans le sens où je me dis, mais voilà, comment l'imaginer ? Mais en tout cas, je le crois. C'est une réalité. Si la Bible le dit, c'est que c'est la réalité. Donc, Jésus est venu pour nous sauver. Alléluia. Et ce matin, nous étions dans la joie, même si ça aurait mérité d'avoir un peu plus de joie. Je crois que à chaque fois qu'on se réunit, qu'on est convoqué par le Seigneur à louer notre Dieu, on doit le faire avec plus de ferveur, je trouve. On est tous d'accord avec ça. Hein. Et des fois, on a besoin Ce matin, certains m'ont demandé, hier, donc, il y avait le repas avec les jeunes et les ados, m'ont demandé comment ça allait ce matin. Je leur ai dit qu'il me manquait quelques minutes. Et certains m'ont répondu, mais moi, c'est quelques heures de sommeil. Et des fois, on n'est pas forcément physiquement bien. Mais on doit, comme va le dire l'apôtre Paul, crucifier notre chair et dire, mais Seigneur, je suis venu pour te louer. Et je ne veux pas laisser l'opportunité à qui que ce soit de te louer. Alléluia. Beaucoup apprécié la prière de Vincent ce matin, qui a dit, Seigneur, je ne peux pas faire autrement que de te louer et de t'apporter finalement ma louange. Amen. Vous savez que vous y avez droit? Alors, pas encore, j'attends que ça vienne. C'est la réalité, que personne ne se prive. Alors, certes, c'est un combat, je l'ai dit tout à l'heure. Des fois, on n'ose pas, on se compare à celui qui a le plus d'éloquence dans l'Église. On se dit, mais moi, j'y arriverai jamais. Des fois, c'est déstabilisant. Mais quand on le fait, on réjouit le cœur de Dieu. Et je ne sais pas vous, moi, je suis disposé à réjouir le cœur de mon Seigneur. Et je veux, dans cette nouvelle année, donc il y aura... dans cette nouvelle cette fameuse période de vœux pour s'améliorer encore et toujours. Et dire, Seigneur, mon désir, c'est de te plaire. Et donc, je veux prendre cette résolution de pouvoir te louer à haute voix. Parce que certains, ils dégainent l'arme fatale. Oui, mais, pasteur, vous savez pas, je prie dans mon cœur. Super, c'est bien. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous faire une comparaison ce matin. Imaginez-vous que Jonathan, en introduction du premier chant, il dise, bon voilà, on va chanter le Seigneur, mais dans notre cœur. À un moment donné, on a besoin de pouvoir exprimer. Et nous-mêmes, c'est comme ça que l'on fonctionne avec nos enfants. Des fois, on sait, les enfants, ce qu'ils ont besoin. Déjà, on les voit tourner en rond. Ils veulent nous demander quelque chose. Mais on attend le moment qu'ils puissent avoir remporté cette victoire sur eux, sur la crainte d'avoir un refus et de venir voir les parents pour nous faire leur demande. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. C'est pour ça qu'il est appelé le Père. Il est Dieu le Père. Et il attend que chacun de nous, nous puissions nous exprimer dans la liberté. Alléluia. Pas dans l'extravagance. Mais dans cette liberté de pouvoir louer le Seigneur, et je crois qu'on doit le faire avec davantage de ferveur. Alors oui, Jésus nous sauve de quoi? Du péché. Jésus nous sauve du jugement et de la condamnation. Nous étions condamnés. Et le Seigneur est venu donc nous libérer de tout cela. Il nous sauve de la mort spirituelle. Il nous sauve de la crainte de la mort. J'aime le dire, j'aime le répéter. Si quelqu'un craint, qui a donné sa vie au Seigneur et qu'il n'est pas sûr de passer l'éternité avec Christ, il faut revenir un peu en arrière, il faut mettre sur stop. Parce que la conversion et le salut, c'est la première des choses que le Seigneur va nous donner, va apporter, cette assurance que nous sommes sauvés. Et que quoi qu'il arrive, nous sommes attachés à lui. Si nous restons fermement attachés à sa personne, parce qu'encore une fois, il y a dans d'autres dénominations qui disent un jour sauvé, toujours sauvé. La Bible nous dit que, en fait, il faut travailler à notre salut. C'est quoi travailler à notre salut C'est réaliser tous les jours cette grâce qui nous a été donnée. Amen. Et quand le Seigneur vient dans notre vie, alléluia, alors il enlève la crainte de la mort. Et alors, il y a le fameux passage de la vie à la mort qui est assez déstabilisant, j'imagine, parce qu'il n'y a personne qui est allé de l'autre côté qui est revenu, enfin, en tout cas ici. Mais le passage, l'appréhension, bien sûr, on reste humain, mais on sait que derrière ça, il y a cette confiance au Seigneur, c'est que le Seigneur nous délivre, nous sauve de la crainte de la mort, alléluia, et le Seigneur nous sauve de la puissance du monde et de Satan. Ce qui sous-entend, comme nous avons changé de camp, le monde n'a plus de pouvoir sur nous. Le Seigneur nous accorde cette liberté. Et la liberté, vous savez laquelle c'est de pouvoir dire non à certaines choses. C'est, on ne vient pas avec une liste, un chrétien ne doit pas faire ceci, ne doit pas faire cela. Il y a des choses qui sont tellement logiques qu'on ne se pose même pas la question. Mais on a cette liberté de pouvoir dire non. Par exemple, sur quelque chose, c'est nocif pour mon corps. et je ne peux pas, je ne veux pas. Donc c'est ça, la vraie liberté. Il nous sauve de la puissance du monde, de l'esprit du monde, de cette image qui vient, et puis on vient essayer de forcer cette image en chacun d'entre nous. Et également de Satan. Est-ce que vous savez que vous êtes libre? Le Seigneur nous a libérés. Satan n'a plus de pouvoir sur nos vies. Et des fois, il y a certains qui le pensent, hein, à un moment donné, qui vivent sous la culpabilité de je sais plus quoi. Si on vient au Seigneur, on a confessé nos péchés, la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et l'ennemi n'a plus de pouvoir. Il va essayer de nous déstabiliser. Mais nous, nous pouvons venir avec cet acte légal accompli à la croix du calvaire, où Jésus a signé en bas de la feuille en disant « Cette personne m'appartient. Elle est à moi, tu n'as plus de pouvoir sur elle. » Et ça, on doit pouvoir le déclarer, mais surtout le vivre. Nous sommes libres. Alléluia. Amen. Alors, pour résumer, il nous sauve. Jésus est Dieu qui sauve. Et là, ça a rapport avec la Trinité. Le Sauveur attendu pour tous les hommes pieux depuis la chute en Éden est annoncé par tous les prophètes. Il est en train de naître à ce moment-là. Il vient donc s'incarner, pas se réincarner, hein, mais s'incarner dans ce petit bébé. Alléluia. Sauver, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, c'est passer de la prison de Satan à la présence de Dieu. Frères et sœurs, chaque fois que nous avons l'opportunité de rentrer dans la présence de Dieu, il faut y courir. Et la présence de Dieu, on en a besoin. Et peut-être je pose cette question, depuis combien de temps tu n'as pas été renouvelé dans la présence de Dieu? Et on a besoin de prendre ces temps personnels pour nous trouver dans la présence de Dieu. Et dire, Seigneur, viens nous visiter. On l'a tous expérimenté. Cette présence de Dieu, elle est bonne. Elle est bonne pour nos vies. Elle vient enlever toute incertitude, tout doute. Quand on sort de moments où on a été visité par le Seigneur, vous avez remarqué, on se sent fort. On se sent invincible. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a rassurés par sa présence. Être sauvé, ça signifie qu'on est passé de la déchéance à la perfection. Est-ce que vous savez que vous êtes parfait? Parce que souvent, j'entends le contraire. Je suis pas parfait, c'est pour excuser les mauvais caractères, souvent. Des fois on dit, c'est pour excuser les caractères forts. Non, 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 les mauvais caractères. Pas de caractère fort, c'est mauvais caractères. Mais au travers du sacrifice de Christ, c'est pour ça que le passage que j'ai lu tout à l'heure d'Hébreux, pour le passage de la Sainte Seine, nous dit que le Seigneur nous a purifiés. Et là, encore une fois, quand le Seigneur nous voit, le Dieu le Père, quand il nous voit comme sous le prisme de la croix du calvaire, le sang qui a coulé, et donc il nous voit parfaits. Encore une fois, ça nous dépasse. Si c'est pas le Saint-Esprit qui vient mettre ces choses dans nos cœurs, on est vite bouleversé. Mais en tout cas, c'est la réalité. Le Seigneur, quand il nous sauve, il nous accorde, il nous fait passer de la folie à la vraie intelligence. Un croyant est intelligent. Il se focalise sur les choses essentielles, pas sur les broutilles. Vous savez, dans les églises, je ne sais pas si encore si c'est le cas, hein, mais certains vont s'offusquer. On ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Quel drame terrible. Je ne sais pas que c'était si dramatique. Se focaliser sur les choses vraiment importantes. Que le Seigneur nous donne l'intelligence. L'intelligence également pour savoir parler, savoir nous taire quand il le faut. Des fois, il faut simplement se taire dans certaines situations. Et pas dans des discussions, toujours avoir raison. Et je vous promets, hier on a discuté avec quelques jeunes, que personnellement j'avais un caractère, et on ne parle pas comme ça des paroles en l'air, mais ces choses-là, on les a expérimentées, c'est que je voulais toujours avoir le dernier mot, et moi, j'étais connu pour être un très très mauvais perdant. Et quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous apprend à perdre, à laisser tomber, certaines fois, dans certaines discussions, dit, écoute, tu veux rester avec ta raison, reste avec ta raison, je garde mon cœur, il n'y a aucun souci. Et la Bible nous dit que, faute de bois, le feu, il s'éteint. Hein. Mais pour cela, il faut avoir de la maîtrise. Il faut pouvoir maîtriser ses émotions. Ils se sont dit, si on revendique, d'ailleurs, nous, les Français, on est connus pour un peuple revendicateur. Et c'est en ce sens-là que l'apôtre Paul va dire, vous subirez pas un peu d'injustice. C'est dur, hein. Quand on a raison, de pouvoir se taire, c'est pas évident. En tout cas, le Seigneur, il nous amènera toujours à réaliser ces choses-là, afin que nous soyons de plus en plus intelligents. Et le Seigneur nous sauve des ténèbres, et désormais, nous marchons dans la lumière. Alléluia. Et cela réjouit notre cœur. Ésaïe 52, verset 10, nous dit « L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Seigneur. » Alléluia. Ce salut, il est extraordinaire. Et le message numéro un de l'Église, c'est que Jésus, et c'est ça le vrai sens de Noël, c'est le nom qui sauve, c'est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie dont ce monde a besoin. Et puis l'ennemi essaie de dire, mais non, il y a un itinéraire bis pour aller au ciel. Un itinéraire conseillé, c'est pas vrai, hein? Qu'un seul chemin. Seule vie, une seule vérité. Alléluia. Alors le Seigneur, oui, il nous sauve. Le Seigneur est grand. Je ne sais pas comment vous voyez Jésus. D'ailleurs, on nous dit, et vous allez l'entendre sûrement dans cette période, que c'est le petit Jésus. Ah, vous savez quoi? Ah ben, c'est pas celui que je connais, moi. Moi, je connais le grand Jésus. Celui qui donne sa vie pour moi, pour me racheter. Alors, au verset 32, on l'a lu, « Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il sera grand aux yeux de Dieu, amen, des anges, à cause de l'œuvre qu'il va accomplir. » Pourquoi il est dit ici de voir, de réaliser que Jésus, il sera grand? Parce que si, dans votre cœur, Jésus est un petit Jésus, ça sous-entend qu'il n'aura jamais la capacité de faire des choses extraordinaires. Mais quand on le voit grand, tel qu'il est, alors on se dit, mais il est tellement grand que finalement, dans mon problème, dans ma difficulté, il a la capacité d'intervenir. Il a la capacité d'agir. Alléluia. Et c'est la réalité des choses. Jésus est grand. Avant d'être grand aux yeux des hommes, à cause de ses miracles, de sa résurrection, puis de sa gloire manifestée, vous savez, avant d'être grand, il s'est humilié. Pourtant, celui qui était le plus élevé de tous s'est humilié, vous savez pourquoi? Pour nous, pour chacun d'entre nous. Amen. Il a été grand dans son amour. L'amour qui a été déversé à la croix du calvaire est extraordinaire. Mardi, nous avons partagé ensemble sur l'amour infini de Dieu. Grand dans son amour est plus grand et le plus grand qu'il puisse exister. Certes, on peut être aimé par nos parents, nos enfants, les membres de nos familles, mais l'amour de Dieu, avec quoi pourrait-on le comparer? 1 Jean chapitre 4, verset 10. Parce que l'amour, ça ne s'arrête pas simplement à un concept. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Ce verset, il sous-entend que le plus grand acte d'amour, c'est que le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a envoyé pour nous son Fils, comment? Comme victime expiatoire. Et cela nous ramène à la loi où il fallait un sacrifice. C'est ce qu'on a lu encore une fois. Sans effusion de sang, point de pardon. Et donc il y a cette image-là. Jésus nous invite à le découvrir dans son amour. Il a été grand par sa puissance. D'ailleurs, on l'a lu ensemble. Rien ne lui est impossible. quand on lit dans les évangiles tous les miracles qu'il a accomplis, et tous ceux qui ne sont pas dans les évangiles, s'ils avaient été donc répertoriés, la Bible nous dit que toutes les bibliothèques du monde ne pourraient contenir les miracles accomplis par Jésus. C'est la puissance. Il parle à des éléments. Le vent s'arrête. C'est extraordinaire. Il fait revivre. Il opère des miracles. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les paralytiques, ils sautent de joie. Alléluia. Parce qu'ils réalisent la puissance de notre Seigneur. Alors oui, notre Seigneur est grand. Et je vais terminer en disant que de ne pas rater le sens de Noël, on a vu le message apporté par le Seigneur, un message pour sauver et le salut pour l'humanité tout entière. Et également, maintenant, une fois que nous avons expérimenté cela, alors nous sommes dans une glorieuse attente de son retour. J'espère que dans votre cœur, vous attendez le retour du Seigneur. Vous savez que dans son retour, il aura un trône, verset 32. Et le Seigneur, Dieu lui-même, lui donnera le trône de David, son père. On voit ici un acte prophétique, une promesse donc accomplie, qui a été donnée à David, l'homme selon le cœur de Dieu, en disant qu'il y aura toujours sur le trône de David quelqu'un de sa descendance. Et on voit tous les miracles accomplis. Il y avait une question hier sur les générations. Et dans toutes les générations, donc il y avait cette descendance de David. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. Le psaume 89, versets 4 et 5 nous dit « J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. » Je ne sais pas si le mot « juré » pour vous, il vous touche, il vous impacte. Mais quand Dieu jure, c'est autre chose des fois que certaines promesses que nous pouvons faire. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur, verset 5. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment il a pu gérer tout ça, David. Parce qu'il y avait de quoi, parce que les chevilles, elles enflent. Mais je crois que l'homme, selon le cœur de Dieu, il a su garder les deux pieds sur terre en ramenant tout pour la gloire de Dieu. Alors oui, ne ratons pas ce message, attendons le Seigneur. Jérémie 23, 5 nous dit, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Amen. Annoncé des siècles auparavant, il règnera sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Un royaume sans fin ne pourra être que celui de l'amour. Alléluia. Alors, je conclus. Le véritable sens de Noël, c'est Dieu qui nous offre un cadeau. Qu'allons-nous faire de ce cadeau? Alléluia. En apprécier, l'apprécier, peut-être le dévaloriser, oui. Le véritable sens de Noël, si on doit garder à notre esprit, c'est que Dieu fait un cadeau pour chacun d'entre nous et on veut l'accepter du fond de notre cœur. Alléluia. Alors, oui, nous voulons, dans ces temps que nous allons vivre, de fait, garder une place dans notre cœur. Au contraire, toute la place pour le Seigneur. Il dirait, Seigneur, je ne veux pas rater le sens de Noël. Je veux m'en souvenir. Que le Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur, et pour qui tu es. Seigneur, nous nous sommes rappelés ce matin que, Seigneur, il y a un sens à ta venue sur terre. Seigneur, nous voulons pas l'oublier. Nous voulons nous le rappeler ce matin. Peut-être que pour certains, c'était quelque chose d'évident. Mais pour d'autres, c'est quelque chose qui a besoin d'être confirmé, encore réaffirmé dans les cœurs. Oui, tu as quitté ton ciel de gloire pour venir sur cette terre. Seigneur mon Dieu, tu es allé à la croix du calvaire, tu as offert ta vie pour chacun d'entre nous. Alors comment, Seigneur mon Dieu, ne pas te louer? Comment ne pas te remercier pour, Seigneur mon Dieu, ce que tu as accompli? Seigneur, merci pour chacun d'entre nous. Je veux te prier pour tous ceux et celles qui peuvent être déstabilisés, Seigneur, par peut-être une mauvaise nouvelle, des temps, Seigneur mon Dieu, peut-être ces temps de fête, Seigneur de Noël, il y a une tristesse qui est là, Seigneur. Je veux te prier pour que, Seigneur, tu puisses te révéler comme celui qui se tient près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui sont dans la tristesse. Nous voulons penser à tous ceux et celles, qui passent par des moments difficiles. Et nous voulons en toute chose que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Bénis mes frères et sœurs, bénis chaque ami, Seigneur, chaque bien-aimé qui est ici présent, Seigneur, et à ton nom seul, nous voulons donner toute la gloire. Merci au notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen.